cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos cours d'histoire de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant tout simplement sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Étienne de la Vessière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous venez de publier un ouvrage absolument majeur intitulé « Asie centrale, 300-850, des routes et des royaumes » paru aux éditions Les Belles Lettres. Nous continuons avec vous notre série consacrée à l'Asie centrale après avoir vu la semaine passer la vie en Asie centrale au Haut Moyen-Âge, eh bien nous nous penchons aujourd'hui sur la fameuse route de la soie. Étienne de la Vessière, comment naît le grand commerce asiatique qui s'étend sur des milliers de kilomètres?
Nous avons tous l'image de marchands caravaniers, libres commerçants, voyageant et reliant les grands pôles de civilisation. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Au départ, le grand commerce caravanier est d'abord limité au sud de l'Hindou Kouch, c'est-à-dire c'est un commerce entre l'Asie centrale et l'Inde, essentiellement. Et ce commerce caravanier qui existe, hein, le mot de caravane est un mot qui naît en Inde, ça veut dire le convoi qui est au départ un convoi militaire pour circuler dans les forêts indiennes. Et ce grand commerce caravanier va, est-ouest, va commencer à exister lorsque la Chine va envoyer des dizaines et des dizaines de milliers de rouleaux de soie pour négocier des alliances. J'ai parlé la semaine dernière de ces Xiongnu, qui étaient les grands adversaires des Chinois au nord de la Chine. La Chine va essayer de négocier des alliances à revers avec d'autres populations nomades situées en Asie centrale pour prendre en tenaille les Xiongnu. Et pour ça, elle va leur envoyer des dizaines et des dizaines de milliers de rouleaux de soie. Donc, le début de la route de la soie n'est pas du tout un début commercial.
C'est un début politique.
C'est un début qui est entièrement diplomatique et politique. Et simplement, les marchands d'Asie centrale, habitués au commerce avec les nomades et habitués au commerce avec l'Inde, mais pas du tout avec la Chine, vont remonter vers la source de cette soie pour se libérer de cette contrainte diplomatique qui, du coup, organisait des rythmes qui n'étaient pas forcément économiques, où il pouvait y avoir un énorme afflux de soie un jour et puis plus rien pendant 3 ans, etc., etc. Donc, le début de la route de la soie est un début qui est politique.
Quels sont les temps de parcours sur cet espace d'est en ouest?
Ça a été très difficile à reconstituer. Ces temps de parcours, on peut évaluer bien sûr des temps de parcours un peu théoriques. D'ailleurs, je le fais. Je donne une carte des temps de parcours qui sont en semaines, en mois, mais cela reste très théorique car bien souvent, d'après les récits de voyages réels que l'on a, on s'aperçoit que les séjours dans les villes, dans les oasis, doublaient souvent ces temps de parcours, tout simplement parce qu'il fallait recevoir les autorisations d'aller plus loin. Et vous pouviez mettre un mois pour aller d'un oasis à l'autre, et ensuite être coincé 3 mois, parce que le roi local refusait de vous laisser aller plus loin.
Et les parcours évoluent en fonction du climat. Nous avons souligné la semaine dernière l'importance du climat dans la zone. Et puis, bon, tout le monde connaît les déserts aussi qui existent dans cette zone. Ces routes évoluent, elles changent selon les saisons?
Oui, alors elles changent d'une part en fonction du climat, des modifications du climat global et aussi en fonction des saisons. Pour donner un exemple de la première modification, il y a au cœur du Taklamakan, le grand désert du Xinjiang chinois, il y avait un royaume qui s'appelle le royaume de Kroraina au bord du lac Lobnor. Et dans l'Antiquité, ce royaume organisait toutes les circulations dans le Xinjiang actuel. C'était vraiment un royaume très prospère, un carrefour commercial. Et voilà que, en raison de modifications climatiques et sans doute aussi tectoniques, les rivières alimentant le lobe nord vont se détourner. Et donc, dans ce climat extrêmement sec, le royaume de Kroaina s'effondre. Et du coup, toutes les routes commerciales sont modifiées puisqu'on ne peut plus passer par ce royaume, et on doit donc passer, longer le piémont du plateau tibétain, ou alors traverser le désert avec plusieurs jours sans eau pour arriver dans les Tian Shan. Et pour donner un exemple de modification intra-annuelle, les rivières centra-asiatiques, notamment les rivières de montagne, doivent être extrêmement difficiles à traverser, notamment au printemps, en été, lorsque les glaciers libèrent leur eau, ce sont des torrents absolument infranchissable. En revanche, en hiver, les températures des Pamirs ou de l'Hindou Kouch ou du plateau tibétain font que l'eau gèle. Et donc, ce qui était un obstacle infranchissable devient une route. On peut circuler sur les rivières.
Oui, alors que c'est le contraire de la guerre. On fait la guerre en mars, en Occident. Là, on fait du commerce en hiver.
Le plus souvent, c'est au moment où parce que le problème, c'est que au moment où les rivières sont gelées, ça peut être un avantage dans certaines régions, mais si on a un col à franchir un peu plus loin, à 5000 mètres, on ne passera pas.
Ouais, ouais.
Donc, en fait, le meilleur moment, c'est la fin de l'automne. Mm. Dans les montagnes, c'est la fin de l'automne, au moment où les rivières sont au plus bas.
Mm. Alors, vous écrivez que l'image classique de la caravane, vous le disiez tout à l'heure, est une image simpliste, la réalité est bien plus complexe. Et il existe deux visions, hein, vous montrez bien cela dans votre ouvrage, une vision littéraire de la caravane et une vision, pour le coup, qui provient cette fois des archives. Et deux visions, deux réalités différentes.
Qui sont sans doute liées principalement à la sécurité des routes. Le convoi caravanier, la grande caravane de milliers de chameaux ou d'ânes, c'est quelque chose d'épouvantablement compliqué à organiser. Vous imaginez trouver en plein désert l'eau, le fourrage, le logement pour ces caravaniers et leurs bêtes? Il faut des gardes, en plus, pour lutter contre les pillards, etc. Donc, on n'y a recours que pour les espaces qui ne sont pas sécurisés. Mais par exemple, lorsque la Chine développe son empire colonial en Asie centrale au 7e ou 8e siècle, on a beaucoup de documents chinois qui ont été conservés par les sables, et on voit des permis de passage de caravanes. Et ce sont des toutes petites caravanes, car on est dans un espace qui est relativement tenu par l'armée chinoise, et donc les caravaniers n'ont pas besoin de se rassembler pour circuler.
La place de la politique, hein, depuis le début de cette émission, on voit que la place de l'administration, au fond, elle est absolument essentielle dans cet univers.
Oui, la circulation n'est pas du tout libre, il faut des laissez-passer. On en a en chinois, mais on en a aussi dans les langues locales. En Kuchien, par exemple, la langue de Kucha au nord du Xinjiang, on a trouvé les passeports. Un passeport, ça va être une sorte de petite description de la caravane faite par le garde qui tient le poste, en disant, il y a 3 personnes, 2 esclaves, il a donné les noms, l'âge peut-être, 5 chameaux, 2 ânes, et c'est une sorte de lettre qui est envoyée au chef du poste suivant, en disant, si cette caravane, si sa composition n'a pas changé, laisse-la passer, si elle a changé, arrête-la. Et donc le voyage n'est pas du tout libre. Il est extrêmement contrôlé.
Il est contrôlé pour le paiement tout simplement d'impôts, de laissez-passer?
Alors, pour plusieurs raisons. Il y a des paiements d'impôts, mais l'attitude de chaque grand empire qui a conquis l'Asie centrale n'a pas forcément été la même. Donc, elle peut être assez variable. Mais surtout, on se méfie de celui qui voyage. Ça peut être un espion, ça peut être un bandit, ça peut être un fuyard, ça peut être un déserteur. Donc il y a véritablement une volonté de contrôle des transports, et on le voit pour la Chine, mais on le voit aussi pour l'Iran. On a des textes très très similaires sur le contrôle du voyage en Iran.
Le pillage est un élément aussi, je ne vais pas dire déterminant, mais très présent dans le monde de la caravane.
Oui, on a parmi les récits les plus détaillés que l'on ait, ce sont des récits de pèlerins chinois bouddhistes qui vont aller en Inde chercher des manuscrits qui vont en pèlerinage en Inde et rapporter des manuscrits pour qu'ils soient traduits en Chine. Et là, on a donc des témoignages de visu très très précis, et notamment, je pense à un grand pèlerin qui s'appelle Xuanzang au 7e siècle. Et lorsqu'on énumère le nombre de fois où Xuanzang, dans son trajet par l'Asie centrale, à l'aller et au retour, est confronté à des pillards, il est au moins 6 fois à des pillards sur son trajet. Ça se passe plus ou moins bien. Parfois, il arrive après coup, c'est-à-dire que c'est la caravane d'avant qui a été pillée, et on voit les marchands morts. Mais le pillage, notamment dans les périodes de désorganisation étatique, est une réalité omniprésente.
Mmh. Alors, c'est très intéressant parce que vous montrez bien que dans votre livre, le métier même de caravanier n'est pas si facile à saisir. Et on confond toujours le caravanier et le marchand.
Oui, parce que autant on a quelques données, pas tant que ça, j'aurais aimé qu'on en ait beaucoup plus, sur les marchands, autant sur le métier spécialisé de caravanier, et notamment d'organisateur de grandes caravanes, on n'a rien. Par rapport au Proche-Orient, où on voit des chefs caravaniers négocier avec des groupes nomades pour louer des chameaux, pour acheter des vivres, etc. etc. On n'a rien de tout ça, malheureusement. C'est le hasard des sources.
C'est le hasard des sources. Comment expliquer cette absence des sources ?
Il y a une raison très technique à cela.
C'est la préservation ?
Oui, tout à fait. Mmh. Tout simplement parce que dans tout l'ouest de l'Asie centrale, où se concentraient les grandes communautés marchandes, notamment dans l'Ouzbékistan actuel, ce qu'on appelle les marchands sogdiens, la terre est du leus, une argile très fine, mais une argile qui est acide. Mmh. Et donc, elle dissout. Lorsque vous faites des fouilles archéologiques, par exemple à Samarcande, vos blessures ne guérissent pas bien. Tout simplement parce que cette terre dissout les chairs. Et donc, vous imaginez, un morceau de papier dans du leus, en quelques années, il ne reste rien. Un morceau de parchemin dans du leus, il ne reste rien. Donc, on n'a pas cette documentation. La documentation que l'on a, soit elle vient de grottes, quand par hasard, on a caché des archives dans une grotte, par exemple en Afghanistan, il y a des documents qui ont été retrouvés, ou alors, elles viennent de l'est de l'Asie centrale, dans laquelle la terre est le sol est souvent sableux, et là, les documents peuvent se conserver.
Quand est-ce qu'apparaît exactement le caravansérail, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser, et quel est le rôle du caravansérail ?
Le caravansérail est assez tardif dans cette histoire. Le caravansérail est sans doute une création musulmane, avec des sources venues du Proche-Orient, notamment des fortins romains qui s'égrenaient le long des routes. On a par exemple très bien démontré que entre le Nil et la mer Rouge, les fortins romains avaient des abreuvoirs tout à fait surdimensionnés, et donc que ces fortins, par rapport à leurs troupes, et donc que ces fortins servaient de lieu d'abri des caravanes. Et sans doute ce modèle-là qui va être transposé en Asie centrale à la fin du 8e et au début du 9e siècle, et lorsque la frontière militaire musulmane va reculer vers le nord, avec les conversions des populations plus au nord, ces fortins, susceptibles d'être abandonnés militairement, avec en plus des fortins tenus par des milices paysannes locales, ont été reconvertis en lieu d'accueil des caravansérails. Mais dans cette histoire, si vous voulez, le caravansérail ne joue pas un rôle majeur pour ma période, tout simplement parce qu'il arrive très tard.
Que transportait-on dans ces longues caravanes ? Quelles sont les marchandises ? Vous évoquiez la soie. Est-ce que ce sont essentiellement des produits de luxe et uniquement donc la soie ?
On a la chance de pouvoir faire des calculs économiques. C'est-à-dire que pour certaines de ces oasis, on a une très grande, très importante documentation chinoise. Et donc, on a des prix. On sait combien coûte un chameau. On sait combien coûte un kilo de farine. On sait combien coûte un rouleau de soie. Et donc, on est capable, avec ces données, et étant donné qu'on sait combien peut porter un chameau, en général, ils peuvent porter jusqu'à 250 kilos, mais en général, pour pas les épuiser, on ne les chargeait pas plus de 150 kilos. On est capable de, si on le charge uniquement de rouleaux de soie, ça vaut combien? Si on le charge de kilos de farine, ça vaut combien? Etc. Et on s'aperçoit que sur les longues distances, seuls les produits les plus précieux valaient le coup d'être transportés. Il n'y a aucun transport caravanier de produits alimentaires, de grains, par exemple, entre les oasis. Ils sont trop éloignés les uns des autres, ça ne vaut pas le coup. En revanche, la soie, bien sûr, mais aussi, par exemple, tous les produits médicinaux, les parfums, le musc qui est une spécialité d'Asie centrale, il y a un petit chevrotin qui porte le musc, qui vaut très 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 cher, ça vaut le coup. Les reliques, le papier, il y a les tissus, tous les tissus, parce qu'on parle souvent de la soie, mais il n'y a pas que un tissu de chanvre ayant un tissage particulièrement complexe vaudra autant qu'un rouleau de soie. C'est l'ensemble des produits de luxe qui peuvent être transportés d'oasis en oasis. En revanche, le transport de produits lourds ou de produits alimentaires est limité à l'intérieur des oasis.
Ma collègue Mathilde a réalisé une émission sur les épices à l'époque médiévale en Occident. Est-ce que on commençait à transporter des épices aussi?
Tout à fait. Tout à fait. En fait, la lettre dont nous parlions la semaine dernière de ce marchand Nanaï Vandak fait partie d'un ensemble de lettres commerciales qui ont été trouvées. C'est une sorte de sac postal qui a été confisqué par un garde dans une tour de garde. Il devait avoir un problème de passeport. Parmi ces lettres, ces anciennes lettres sogdiennes, on voit le commerce des épices indiennes et devenu de tout l'océan Indien, en fait.
Alors, on distinguait tout à l'heure caravanes et marchands. Où sont les marchands, exactement?
On ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. On le sait pour les grandes villes chinoises, parce qu'on connaît leurs plans, où on sait où étaient les auberges, on sait où étaient les marchés. Donc ça, on arrive bien à le situer. Mais, par exemple, il y a une ville qui a été fouillée au Tadjikistan, qui s'appelle la ville de Penjikent, on appelle ça la Pompéi de l'Asie centrale, simplement parce qu'on trouvait énormément de peintures murales, et aussi parce qu'on a fouillé presque la moitié de la ville. On n'a aucune écurie, pas donc de caravansérail, on a un bazar, pas grand. Donc en fait, pour le moment, on ne sait pas très bien, ça fait partie des questions.
Est-ce qu'il y a ce qu'on appellerait des centres commerciaux, même si bien évidemment l'expression peut sembler anachronique, mais au sens propre, c'est-à-dire un peu comme Palmyre au fond, parce qu'on comprend que Palmyre était un centre commercial, une porte d'entrée entre l'Est et l'Ouest?
Tout à fait, ça on les a. On a par exemple la ville de Payken qui se trouve au sud de Boukhara, presque à la frontière avec le Turkménistan actuel, entre l'Ouzbékistan et le Turkménistan, et elle est décrite constamment dans les sources comme étant la ville des marchands. Et à un moment, les troupes arabes arrivent, pillent et détruisent la ville, et un texte nous dit, à ce moment-là, il y a une grande caravane de marchands qui arrivait de Chine, et avec leurs richesses, ils reconstruisirent la ville. Donc on a effectivement un certain nombre de villes dont l'activité marchande était absolument centrale. Ce n'est pas le cas pour toutes. À Penjikent, que j'ai décrite tout à l'heure, par exemple, on a donc très peu de traces du commerce.
Donc il faut distinguer le transporteur, les caravanes, du marchand. Est-ce qu'on commerce avec le monde sédentaire d'abord, ou le monde nomade, ou bien les deux?
Les deux. Et une des découvertes, je pense, importantes et qui est décrite dans ce livre, c'est s'apercevoir que ce monde nomade dont je vous ai parlé et dont je vous ai dit que les élites dominaient politiquement l'Asie centrale, ce monde nomade reçoit des tribus, souvent en matière précieuse. Par exemple, les Chinois leur versaient des centaines de milliers de rouleaux de soie chaque année. Ces nomades vont réinverser, ces puissances nomades vont réinvestir ce tribut en confiant la partie qu'ils n'utilisaient pas à des marchands, à charge pour ces marchands, de le revendre à Byzance, en Iran, en Inde, etc. Donc vous voyez, il y a une intégration entre marchands sédentaires et puissances nomades.
Alors, on peut se poser la question, et ça sera la question finale, de l'importance de ce commerce centra-asiatique. Dans notre imaginaire occidental, évidemment, la route de la soie, ça nous parle. Il est important, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ce marché est principalement un marché entre l'Europe et la Chine, tout d'abord? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut parler d'un marché eurasiatique, si vous me permettez l'expression que je vais mettre entre guillemets, de marché eurasiatique global?
Alors, ce n'est pas un marché entre l'Europe et l'Asie, tout simplement parce que si l'on entend par Europe au sens, disons, actuel du terme, l'Europe, à cette époque, est une sorte de coin reculé de l'Eurasie, où il ne se passe pas grand-chose, même si à nous, ça nous semble central. En revanche, il y a un véritable marché global, au 7e et première moitié du 8e siècle, incontestablement, entre l'Iran, Byzance, l'Inde, les Turcs de Mongolie, la Chine, par l'Asie centrale. On a des descriptions à Byzance au 6e siècle d'événements politiques en Chine parfaitement précises. Une précision qu'on ne retrouvera qu'au 13e, 14e siècle avec les Mongols. Donc il y a ce qu'on appelle une sorte de globalisation archaïque qui va être ensuite perdue. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que la globalisation n'est pas un phénomène continu. Il y a bien eu, durant le Haut Moyen-Âge, vous savez, l'Antiquité tardive, le Haut Moyen-Âge, ça nous semble la période, les âges barbares, enfin. En fait, en Asie, c'est le moment d'une très grande globalisation par le grand commerce. Un grand commerce qui est limité aux produits précieux, c'est clair, mais ces produits précieux comptent. À Byzance, le statut social est défini par le type de vêtements et la soie qu'on peut porter ou pas. On a de nombreux textes byzantins qui décrivent ces règles. Et donc, vous voyez, on déclenche des guerres à l'échelle eurasiatique pour le contrôle de ce commerce.
Alors, comment, justement, ce commerce prend fin? Comment cette globalisation prend fin? C'est ce que nous allons voir, Étienne de la Vessière, la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu à notre micro Asie centrale 300-850, Des routes et des royaumes, un livre paru aux éditions Les Belles Lettres. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Je pense notamment aux étudiants. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier volet de notre cours d'histoire consacré à l'Asie centrale.